Chapitre 20. Le pavillon vert. Je vous félicite, monsieur Germaine, sur votre talent de peindre en paroles. Votre description me donne une idée saisissante de madame Van Brandt. Le portrait vous plaît-il, mademoiselle Dunros? Puis-je répondre aussi franchement que d'habitude? Certainement. Eh bien alors, franchement, je n'aime pas votre madame Van Brandt. Il s'était écoulé 10 jours et déjà mademoiselle Dunros avait trouvé accès jusque-là dans ma confidence. Comment m'avait-elle amené à lui confier ces secrets et sacrés chagrins de ma vie que j'avais jusqu'alors réservés pour l'oreille seule de ma mère? Je pourrais facilement dépeindre la façon rapide et subite dont ses sympathies s'unirent aux miennes. Mais j'échouerais entièrement à retracer les gradations d'approche infinies par lesquelles elle surprit et vainquit ma réserve habituelle. La plus puissante influence de toutes, celle des yeux, lui manquait. Lorsque la lumière pénétrait dans la chambre, elle était cachée sous son voile. À tout autre moment, les rideaux étaient fermés, le paravent se trouvait devant le feu, et je pouvais alors distinguer obscurément les traits de son visage, mais pas davantage. Le secret de son influence était peut-être attribuable, en partie, à la simple et sororale manière dont elle me parlait, et, en partie, à l'intérêt indescriptible qui s'associait à sa simple présence dans la chambre. Son père m'avait dit qu'elle apportait avec elle l'air du ciel. D'après mon expérience, je ne puis que dire qu'elle apportait avec elle quelque chose qui s'emparait doucement et inscrutablement de ma volonté et me rendait aussi inconsciemment docile à ses caprices que si j'eusse été son chien. Mes amours d'enfance, dans tous leurs détails, jusqu'au don du pavillon vert, les prédictions mystiques de Dame d'Hermodée, la perte de toute trace de ma petite Marie des anciens jours, le sauvetage de la rivière de madame Van Brandt, son apparition dans le chalet, nos entrevues à Édimbourg et à Londres, l'adieu final qui avait laissé sur mes traits ses traces de douleur, je lui confiais tous ces incidents, toutes ces souffrances, aussi franchement que je les ai confiées à ses pages. Et le résultat m'en fut déclaré par mademoiselle Dunros, assise près de moi, dans la chambre assombrie, avec l'impétuosité de jugement d'une femme, dans les termes que je viens de transcrire. « Je n'aime pas votre madame Van Brandt. »« Pourquoi ? » demandai-je. Elle répondit à l'instant « Parce que vous ne devriez aimer que Marie. »« Mais j'ai perdu Marie depuis l'âge de 13 ans. »« Soyez patient et vous la retrouverez. » Marie est patiente, Marie vous attend. Quand vous la reverrez, vous serez honteux de vous rappeler que vous avez jamais pu aimer madame Van Brandt. Vous considérerez votre séparation d'avec cette femme comme l'événement le plus heureux de votre vie. Je ne serai peut-être plus là pour vous entendre en convenir, mais vous vivrez assez pour reconnaître que j'avais raison. Sa conviction, parfaitement absurde, que le temps me ferait retrouver Marie, m'irrita et m'égaya tout à la fois. « Vous paraissez être d'accord avec Dame d'Hermodée, lui dis-je. Vous croyez que nos deux destinées n'en font qu'une. Quelque temps qui s'écoule, ou quoi qu'il advienne dans l'intervalle, vous croyez que mon mariage avec Marie n'est que retardé et rien de plus ? Je le crois fermement. » Sans savoir pourquoi, sauf que vous détestez la pensée de mon mariage avec madame Van Brandt. Elle sentit que cette explication de sa croyance n'était pas éloignée d'être la vraie, et en véritable femme, elle détourna la discussion. Pourquoi l'appelez-vous madame Van Brandt ? Demanda-t-elle. Madame Van Brandt porte le même nom que votre premier amour. Si vous l'aimez tant, pourquoi ne l'appelez-vous pas Marie ? J'eus honte de lui en avouer le véritable motif, tant il me semblait indigne d'un homme de sens ou de cœur. Remarquant mon hésitation, elle insista pour que je lui répondisse, et elle me força à lui faire un humiliant aveu. L'homme qui nous a séparés, dis-je, l'appelait Marie. Je le hais si jalousement qu'il m'a dégoûté de ce nom. Il a perdu tout charme pour moi en passant par ses lèvres. Je m'étais attendu à ce qu'elle rirait de moi. Non, elle leva subitement la tête, comme pour me regarder fixement dans l'obscurité. « Comme vous devez aimer cette femme, dit-elle, rêvez-vous d'elle encore maintenant ? Je n'en rêve plus jamais. Comptez-vous revoir de nouveau son apparition ? Peut-être, s'il vient un moment où elle ait cruellement besoin de secours et où elle n'ait pas d'autre ami que moi sur lequel elle puisse compter. Votre petite Marie, vous est-elle jamais apparue ?
Jamais.
Mais jadis, vous la voyiez en songe, comme l'avait prédit Dame d'Hermodée ?
Oui, lorsque j'étais enfant.
Et plus tard, ce ne fut plus Marie, mais Madame Van Brandt qui prit place dans vos songes et qui vous apparut en esprit alors que son corps était bien loin de vous. Pauvre vieille dame d'Hermodée, elle ne se doutait pas lorsqu'elle vivait que sa prédiction serait accomplie par une autre femme. C'est à ce résultat que les questions de Mademoiselle Dunross l'avaient incontestablement amenée. Si elle les avait poussées un peu plus loin, si elle ne m'avait pas entraîné dans une fausse direction par la question même qui tomba ensuite à la première de ses lèvres, elle eût communiqué à mon esprit la pensée qui germait obscurément dans le sien, celle d'une possibilité d'identité entre la Marie de mon premier amour et Madame Van Brandt. « Dites-moi, continua-t-elle, si vous rencontriez votre petite Marie aujourd'hui, comment serait-elle ? Quelle espèce de femme vous figureriez-vous voir ?» Je pus à peine m'empêcher de rire. « Comment pourrais-je vous le dire à une pareille distance de temps ? Répliquai-je. « Essayez, dit-elle. » En raisonnant du connu à l'inconnu, je recherchais dans ma mémoire l'image de la frêle et délicate enfant de mes souvenirs et je traçais le portrait d'une femme frêle et délicate, c'est-à-dire le contraste imaginable le plus absolu, avec Madame Van Brandt. La pensée d'identité, à demi réalisée dans l'esprit de Mademoiselle Dunross, s'évanouit à l'instant, chassée par la conclusion formelle qu'impliquait ce contraste. Également ignorant du regain de santé, de force et de beauté développé par le temps et les circonstances dans la Marie de mes jours d'enfance, nous nous étions complètement et inconsciemment fourvoyés l'un et l'autre. J'avais manqué, une fois de plus, la découverte de la vérité et je l'avais manqué de l'épaisseur d'un cheveu. « Je préfère infiniment votre portrait de Marie à celui de Madame Van Brandt, » dit Mademoiselle Dunross. « Marie réalise mon idéal de ce que doit être une femme réellement attrayante. Je ne puis comprendre que vous ayez pu éprouver le moindre chagrin de la perte de cette autre personne, car je déteste les belles femmes. Je ne puis vous dire combien Marie m'intéresse. Je désire en apprendre davantage sur elle. Où est ce charmant cadeau de broderie que la pauvre petite créature avait si adroitement exécuté pour vous ? Montrez-moi le pavillon vert. » Elle supposait évidemment que je portais sur moi le pavillon vert. Je me sentis un peu confus en lui répondant « Je suis désolé de vous désappointer. Le pavillon vert se trouve quelque part dans ma maison du Perthshire. »« Vous ne l'avez pas avec vous ? » s'écria-t-elle. « Vous laissez son souvenir enfermé quelque part ? » ?»« Oh, monsieur Germaine, vous avez réellement oublié Marie. » À votre place, une femme aurait perdu la vie plutôt que de se séparer de l'unique souvenir de l'époque de son premier amour. Elle parlait avec une ardeur si extraordinaire, avec une telle agitation, pourrais-je dire, qu'elle m'effraya réellement. « Chère mademoiselle Dunross, dis-je, le pavillon n'est pas perdu. »« J'espère que non, répliqua-t-elle vivement. Si vous perdiez le pavillon vert, vous perdriez la dernière relique de Marie. » Et plus encore, si ma croyance est fondée. Que croyez-vous ? Vous rirez de moi si je vous le dis. Je crains que ma première impression de votre visage n'ait été fausse. Je crains que vous ne soyez un homme dur. En vérité, vous me faites injure. Je vous supplie de me répondre aussi franchement que d'habitude. Que perdrais-je en perdant la dernière relique de Marie ? Vous perdriez la seule espérance que je conserve pour vous, répondit-elle gravement, l'espérance de votre réunion et de votre mariage avec Marie dans l'avenir. Je n'ai point dormi la nuit dernière et j'ai songé à votre charmante histoire d'amour près des bords du brillant lac anglais. Plus j'y ai songé et plus j'ai acquis la ferme conviction que le pavillon vert de la pauvre enfant est destiné à exercer son innocente influence sur votre vie future. « Votre bonheur repose dans ce naïf petit souvenir. Je ne saurais expliquer ni justifier cette croyance de ma part. C'est une de mes excentricités, je suppose, comme d'apprendre à mes chats à danser au son de ma harpe. Mais si j'étais votre vieille amie, au lieu de n'être pour vous qu'une amie de quelques jours, je ne vous laisserais pas de répit. Je persisterais, comme une femme seule peut persister, à vous supplier, à vous solliciter, jusqu'à ce que j'aie obtenu de vous faire du cadeau de Marie, votre compagnon aussi intime que le portrait de votre mère, accroché là dans un médaillon à votre chaîne de montre. Tant que le pavillon ne vous quittera pas, l'influence de Marie vous accompagnera, l'amour de Marie conservera sur vous ses chers vieux liens, et vous vous retrouverez, mariez-vous, après des années de séparation. » L'idée était en elle-même charmante et poétique, et l'ardeur avec laquelle elle avait été exprimée aurait agi sur un homme d'une nature plus rebelle que la mienne. J'avoue qu'elle me fit rougir, sinon plus, de mon abandon du pavillon vert. « Je le rechercherai à mon arrivée chez moi, dis-je, et je veillerai à ce qu'on le conserve soigneusement à l'avenir. »« J'exige davantage, répliqua-t-elle. Si vous ne pouvez porter sur vous le pavillon, je veux qu'il vous accompagne toujours, partout où vous irez. Lorsqu'on vous a apporté ici votre bagage, vous vous êtes particulièrement inquiété du sort de votre pupitre de voyage que voilà sur la table. Renferme-t-il quelque chose de très précieux ?» Il renferme mon argent et d'autres objets que je prise bien davantage, les lettres de ma mère et quelques reliques de famille que je serais très désolé de perdre. De plus, ce pupitre lui-même a pour moi un intérêt tout particulier, comme ayant été mon constant compagnon de voyage depuis de longues années. Mademoiselle Dunrow se leva et s'approcha de la chaise sur laquelle j'étais assis. « Que le pavillon de Marie devienne votre constant compagnon de voyage, dit-elle. Vous m'avez témoigné beaucoup trop de reconnaissance de mes services comme votre garde-malade. Récompensez-moi selon mes mérites. Montrez-vous indulgent, monsieur Germaine, pour les idées superstitieuses d'une femme solitaire et visionnaire. Promettez-moi que le pavillon vert prendra place parmi les autres petits trésors que renferme votre pupitre. » Il est inutile de dire que je me montrai indulgent et que je souscrivis à la promesse réclamée de moi avec l'intention sérieuse de la remplir. Pour la première fois depuis que je la connaissais, Mademoiselle Dunrow plaça sa pauvre main décharnée dans la mienne qu'elle pressa pendant un moment. Sous la première impulsion inconsidérée de ma reconnaissance, je portai sa main à mes lèvres avant de la laisser aller. Elle tressaillit, trembla, et sortit de la chambre subitement et silencieusement.